Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité largement consacrée à la guerre au Moyen-Orient. Au Liban d'abord, un vent de panique s'est emparé à Beyrouth après un appel inédit d'Israël à évacuer toute la banlieue sud de la capitale. Cela concerne des centaines de milliers de personnes qui doivent fuir vers le nord. Et selon le ministère de la Santé libanais, le bilan des frappes israéliennes depuis lundi s'élève à 102 morts dans le pays. Au sixième jour de la guerre, les frappes s'intensifient dans toute la région. Des explosions sont notamment entendues à Abu Dhabi. Les derniers développements dans cette édition. Nous l'avons évoqué dans les titres. Au Liban d'abord, la panique s'est emparée à Beyrouth après un appel inédit d'Israël à évacuer toute la banlieue sud de la capitale. Cela concerne des centaines de milliers de personnes qui doivent fuir vers le nord. Le chef d'état-major des armées françaises est arrivé ce jeudi à Beyrouth et a rencontré le président libanais Joseph Aoun, tandis que Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec Donald Trump et Benjamin Netanyahou, qui l'a appelé à préserver l'intégrité du territoire du Liban et à s'abstenir d'une offensive terrestre. Et selon le ministère de la Santé libanais, le bilan des frappes israéliennes depuis lundi s'élève à 102 morts dans le pays. Au sixième jour de la guerre, les frappes s'intensifient dans toute la région. L'armée iranienne a annoncé avoir lancé une attaque de drones contre une base américaine au Kurdistan, dans le nord de l'Irak. Dans le Golfe, des explosions sont entendues. À Abu Dhabi, les Émirats arabes unis affirment que la défense aérienne répond à une menace de missiles. Les pays de l'Union européenne et du Golfe ont exigé dans une déclaration commune que l'Iran cesse ses attaques injustifiables au Moyen-Orient qui menacent la sécurité mondiale. Et l'Italie, la France, l'Espagne et les Pays-Bas vont envoyer des moyens navals pour défendre Chypre dans les prochains jours après une attaque de drones iraniens contre une base britannique sur l'île. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, deux militaires de l'armée de l'air algérienne sont morts et quatre ont été blessés. Leur avion s'est écrasé peu après son décollage d'une base au sud d'Alger, selon le ministre de la Défense. Et enfin en France, la mort de Naël Marzouk, le policier auteur du tir qui a tué l'adolescent en juin 2023 à Nanterre, sera jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. Une décision de la cour d'appel de Versailles qualifiée par la famille de Naël Marzouk comme scandaleuse. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour consacré à cette guerre au Moyen-Orient. Premier dossier, face à l'escalade militaire entre Israël et le Hezbollah, le président libanais Joseph Aoun a demandé l'intervention de la France auprès d'Emmanuel Macron. Paris qui appelle de son côté toutes les parties à la retenue. Selon la présidence libanaise, le chef de l'État a reçu un appel téléphonique du président français ce mercredi. Emmanuel Macron a alerté le président américain Donald Trump sur la situation au Liban. Nous y revenons avec l'ex-ambassadeur et spécialiste des questions internationales, Claude Blanche-Maison.
La France, évidemment, est très attachée à la restauration de l'intégrité territoriale et du respect de cette intégrité territoriale. Par conséquent, elle a pris la position que vous venez de décrire. Bien sûr, pour le positionnement de troupes israéliennes sur le territoire libanais, l'intervention de troupes au sol au Liban serait une mesure grave.
Et ce jeudi devait se tenir une conférence de soutien à l'armée libanaise. Cette conférence a bien entendu été reportée. Comment est-ce que la France peut aujourd'hui aider son partenaire historique libanais?
Écoutez, elle l'a déjà fait à plusieurs reprises et elle le fera encore, je pense. Le président libanais avait très clairement dit que il n'accepterait pas que le Hezbollah continue à avoir des actions armées. Alors évidemment, la situation est complexe puisque il y a deux branches. En réalité, il y a une branche politique du Hezbollah qui a sa place dans la politique intérieure libanaise, et puis la branche militaire qui doit désarmer d'après les accords qui ont été conclus.
Voilà, qui a été interdite notamment le Premier ministre Salam.
Voilà, absolument, vous avez raison. C'est-à-dire que le président libanais était très courageux et le gouvernement libanais a interdit, en effet, les activités de cette branche militaire.
Vous venez d'écouter Claude Blanche-Maison, ex-ambassadeur et spécialiste des questions internationales au micro de François-Xavier de Calonne. Second dossier dans ce contexte de tensions extrêmes autour de l'Iran, une question revient avec insistance, jusqu'à où Washington pourrait aller et avec quel relais sur le terrain. L'hypothèse d'une action au sol est évoquée, tout comme l'option d'une intervention de groupes kurdes susceptibles d'être appuyés par les États-Unis. Pour décrypter ces scénarios, je vous laisse écouter l'analyse de Jean-Pierre Perrin, grand reporter et spécialiste de l'Iran.
Alors il y a aussi la possibilité de pousser en avant les groupes kurdes, par exemple, qui évidemment rêvent d'en découdre avec la République islamique, qui sont donc aux aguets, et qui peut-être que s'ils notent un signe d'affaiblissement profond du régime, en particulier de l'armée et des gardiens de la révolution, pourraient intervenir. Ils sont sur le qui-vive, ils sont armés. Et j'ai appris que Donald Trump en personne avait passé deux coups de fil, l'un à Massoud Barzani, qui est le chef des Kurdes irakiens, pas iraniens, irakiens, mais qui a une personnalité qui transcende un peu les frontières kurdes, et l'autre à son rival, qui est Talabani, fils du grand dirigeant kurde Talabani. Et alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit, évidemment, ça, on ne peut pas savoir, mais il y a quand même au plus haut niveau des contacts entre les Américains et les Kurdes irakiens, sachant que les Kurdes iraniens, eux, se trouvent sur le territoire. Les groupes ennemis de la République islamique se trouvent sur le territoire des Kurdes irakiens. Donc vous voyez, on voit se dessiner une carte kurde. Alors est-ce qu'elle va être jouée? On ne peut pas le dire encore. Mais je pense qu'elle est dans la pensée américaine, peut-être sous la forme de groupes kurdes qui iraient à l'attaque, au Kurdistan évidemment, et qui seraient peut-être soutenus à la fois par l'aviation et puis peut-être par des forces spéciales américaines. Mais là, on spécule un petit peu.
Vous venez d'écouter Jean-Pierre Perrin, grand reporter et spécialiste de l'Iran, au micro de Nadia Bencher. Dernier dossier, alors que les bombardements israélo-américains sur l'Iran se poursuivent, sur qui la République islamique peut-elle encore compter? D'après Pierre Berthelot, directeur de la revue Orient Stratégique, elle peut encore s'appuyer sur un certain nombre de relais, dont les Houthis au Yémen et la Chine. On l'écoute.
Ils ont un rôle majeur puisqu'ils permettent à l'Iran finalement de bloquer tout le reste de la région. Parce que déjà, on voit que le détroit d'Ormuz, ça va être de plus en plus compliqué de faire sortir quoi que ce soit. Et le plan B, c'est que le pétrole et le gaz qu'on n'arrive pas à faire sortir par le détroit d'Ormuz, il va sortir par le canal de Suez et la mer Rouge. Sauf que là aussi, il suffit que Téhéran donne l'ordre. À ce moment-là, les Houthis vont aussi agir et semer la perturbation dans cette zone. Par contre, sur la Chine, hein, le vrai problème de la Chine aujourd'hui, c'est sa dépendance énergétique. Alors, de ce point de vue-là, si l'Iran bascule, c'est une très grosse perte qui entraînerait un contrôle de l'ensemble des ressources de la région par les Américains et leur relais. Et à ce moment-là, il y aurait une vulnérabilité que ne pourrait pas totalement compenser la forte hausse des exportations d'hydrocarbures russes vers la Chine. Donc les Chinois, je pense, vont apporter un soutien, à mon sens, très important, mais toujours discrètement. Soit au point de vue militaire, ils peuvent les aider au niveau des missiles, soit directement, soit par des proxys de la Chine, comme la Corée du Nord, et ils vont apporter, tant que la guerre durera, un soutien économique pour pas que l'économie iranienne s'effondre. Pour eux, c'est décisif. Et si les États-Unis finalement s'embourbent dans cette guerre, eh bien, ce sera un coup très, très important qui aura été porté au rival américain.
Vous venez d'écouter Pierre Berthelot, directeur de la revue Orient Stratégique, au micro de Marc-Aurel Barrez. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.